et ce qu'on a raison de dire. Car, voyant la place inoccupée, mais pleine de beaux noms et de belles apparences, ces étrangers de peu de valeur, semblables à des criminels échappés de leur prison, qui vont se réfugier dans les temples, désertent avec empressement leur profession pour la philosophie, quoique habiles d'ailleurs dans leur métier habituel. En effet, malgré son abandon, la philosophie ne laisse pas de conserver une dignité qui l'élève au-dessus des autres arts et qui la fait rechercher par une foule d'hommes que la nature avait peu fait pour elle et dont un travail servile a usé, dégradé l'âme, comme il a défiguré le corps. Et peut-il en être autrement ? Non, Socrate. Allez voir. Ne dirais-tu pas, un esclave chauve et chétif, à peine libre de ses fers, qui, ayant amassé quelque argent avec sa forge, court au bain public pour s'y laver, prend un habit neuf, et, habillé comme un nouvel époux, va épouser la fille de son maître, que lui livre la pauvreté et l'abandon où elle se trouve. La comparaison est fort juste. Quels enfants produira cette union ? Des enfants abâtardis et mal conformés. Cela doit être, Socrate. De même, quelles pensées, quelles opinions seront le fruit du commerce que des âmes sans dignité et incapables de culture auront avec la philosophie ? Des sophismes, pour les appeler de leur véritable nom. Rien de légitime, rien qui annonce une véritable sagesse. Précisément, Socrate. Le nombre de ceux qui peuvent dignement avoir commerce avec la philosophie reste donc bien petit, mon cher Adimante. Ou quelques nobles esprits perfectionnés par l'éducation et qui, relégués dans l'exil, demeurent fidèles à la philosophie, comme il convient à sa nature, et loin des causes qui auraient pu le corrompre. Ou bien quelques grandes âmes qui, nées dans un petit état, méprisent et dédaignent les charges publiques. Ou, à grand-peine encore, quelque esprit heureusement doué qui déserte avec raison toute autre profession pour se livrer à la philosophie. D'autres, enfin, peuvent être arrêtés par le même frein qui retient auprès d'elle notre ami Théagès. Tout conspire à l'éloigner de la philosophie, mais ses maladies continuelles l'y tiennent constamment attachée, l'empêchant de se mêler des affaires publiques. Pour ce qui me regarde, il ne convient guère de parler de cette voix divine qui m'avertit intérieurement, car on en trouverait à peine un autre exemple dans le passé. Or, parmi ce petit nombre d'hommes, celui qui goûte et qui a goûté la douceur et la félicité que donne la sagesse, lorsqu'en même temps il voit en plein la folie de la multitude et l'extravagance de tous les gouvernements, lorsqu'il n'aperçoit autour de lui personne avec qui il pût, sans se perdre, marcher au secours de la justice, et que, semblable à un homme qui se trouve au milieu de bêtes féroces, incapable de partager les injustices d'autrui, et trop faible pour s'y opposer à lui seul, il reconnaît qu'avant d'avoir pu rendre quelque service à l'État ou à ses amis, il lui faudrait périr, inutile à lui-même et aux autres. Alors, ayant bien fait toutes ses réflexions, il se tient en repos, uniquement occupé de ses propres affaires, et comme le voyageur pendant l'orage, abrité derrière quelques petits murs contre les tourbillons de poussière et de pluie, voyant de sa retraite l'injustice envelopper les autres hommes, il se trouve heureux s'il peut couler ici-bas des jours purs et irréprochables et quitter cette vie avec une âme calme et sereine et une belle espérance. Oui, Socrate, sortir ainsi de la vie, ce n'est pas l'avoir mal employé. Mais, Adimante, c'est aussi n'avoir pas rempli sa plus haute destinée, faute d'avoir vécu sous une forme convenable de gouvernement. Suppose un gouvernement pareil. Le philosophe va grandir encore et devenir le sauveur de l'État et des particuliers. Je crois avoir suffisamment montré la cause et l'injustice des reproches qu'on fait à la philosophie. Aurais-tu quelque autre chose à dire ? Je n'ai plus rien à dire là-dessus, Socrate. Mais dis-moi, de tous les gouvernements qui existent, quel est celui qui conviendrait aux philosophes ? Aucun, a dit Mante. Je me plains précisément de ne trouver aucune forme de gouvernement qui convienne aux philosophes. Aussi le voyons-nous s'altérer, se corrompre. De même qu'une graine, semée dans une terre étrangère, perd sa force et prend la qualité du sol où on l'a transportée, ainsi, le caractère philosophique perd dans cette situation la vertu qui lui est propre et change de nature. Si au contraire, il rencontre un gouvernement dont la perfection réponde à la sienne, alors on verra qu'il renferme véritablement en lui quelque chose de divin, et que partout ailleurs, dans les hommes et dans leurs occupations, il n'y a rien que d'humain. Tu vas me demander sans doute de quelle forme de gouvernement je veux parler. Non, Socrate, tu te trompes. Ce n'est pas cela que j'allais te demander, mais si l'état dont nous avons tracé le plan est celui que tu as en vue, ou si c'en est un autre. Oui, sans doute, c'est celui-là sous beaucoup de rapports. Nous avons déjà dit, à la vérité, qu'il fallait trouver le moyen de conserver dans notre état le même esprit qui t'avait éclairé et dirigé, toi législateur, dans l'établissement des lois. Nous l'avons dit, oui. Mais nous n'avons pas développé ce point suffisamment, dans la crainte des objections mêmes que vous avez faites, et dont vous avez montré combien la solution est longue et difficile. Sans compter que ce qui reste à établir n'est nullement aisé. De quoi s'agit-il, Socrate ? De la manière dont l'État doit se conduire avec la philosophie pour qu'elle n'y périsse pas. Toutes les grandes entreprises sont hasardeuses, et comme on dit, le beau est difficile. Cependant, achève la démonstration en éclaircissant ce point, Socrate. Si je n'y parviens pas, ce sera de ma part impuissance et non mauvaise volonté. Je te fais juge de mon zèle. Et pour commencer, vois avec quelle résolution et quelle audace je me permets de dire que dans son commerce avec la philosophie, l'État doit se diriger par des principes opposés à ceux qu'on suit aujourd'hui. Comment donc, Socrate ? Maintenant, ceux qu'on applique à la philosophie sont des jeunes gens à peine sortis de l'enfance, qui se partagent entre cette étude et celle de l'économie et du commerce. Au moment d'entrer dans la partie la plus difficile, je veux dire la dialectique, ils quittent la philosophie, lors même qu'elle a développé en eux les plus heureuses dispositions. Dans la suite, ils croient faire beaucoup d'assister à des entretiens philosophiques lorsqu'ils en sont priés. Ils s'en font moins une occupation qu'un passe-temps. La vieillesse est-elle venue ? À l'exception d'un petit nombre, leur ardeur pour cette étude s'éteint bien plus que le soleil d'Héraclite, puisqu'elle ne se rallume plus. Comment faut-il faire, Socrate ? Tout le contraire. Il faut que les enfants et les jeunes gens acquièrent l'instruction et la science de leur âge, et qu'on prenne un soin particulier de leur corps dans cette saison de la vie, où il croit et se fortifie, afin de le préparer au service de la philosophie. À mesure que l'intelligence prend son développement, on renforcera le genre d'exercice qu'on lui donne. Enfin, lorsque les forces affaiblies ne permettront plus d'exercer les fonctions de magistrat et de guerrier, alors il sera permis de se livrer à la philosophie et de ne s'occuper sérieusement d'aucune autre chose, afin de pouvoir mener ici-bas une vie heureuse, et après la mort, couronner la félicité de leur vie par une félicité qui y réponde. En vérité, mon cher Socrate, il y a de la bonne volonté dans tes paroles. Je crois cependant que la plupart de ceux qui t'écoutent en mettront encore plus à te résister, loin de se laisser persuader le moins du monde, à commencer par Thrasymaque. « Ah, ne nous brouille pas, Thrasymaque et moi !»« Amis récents, jamais ennemis. Il n'est pas d'effort que je ne fasse pour le convaincre, lui et les autres, ou du moins pour leur servir à quelque chose dans une autre vie, lorsque, recommençant une nouvelle carrière, ils rencontreront de semblables entretiens. À la bonne heure, l'ajournement est bien peu de chose. Dis plutôt à Dimante que ce n'est rien en comparaison de toute la durée des temps. Après tout, il n'est pas surprenant que de pareils discours ne trouvent point de croyance dans la plupart des esprits. On n'a point encore vu s'exécuter ce que nous disons. Loin de là, on n'a entendu sur ces matières que des phrases d'une symétrie recherchée, au lieu de propos naturels et sans art comme les nôtres. Mais ce qu'on n'a jamais vu, c'est un homme parfaitement conforme dans ses actions comme dans ses principes au modèle de la vertu, autant que le permet la faiblesse humaine, et à la tête d'un état semblable à lui. Qu'en penses-tu ?
Je ne le crois pas.
On n'a guère assisté non plus, mon cher ami, à de beaux et nobles entretiens consacrés à la recherche assidue de la vérité par tous les moyens possibles et dans la seule vue de la connaître. Où l'on rejette bien loin tout vain ornement et toute subtilité, où l'on ne parle ni pour la gloire ni par esprit de contradiction, comme on fait au barreau et dans les conversations particulières. Cela est encore vrai. Voilà les réflexions qui me préoccupaient et me faisaient craindre de parler. Cependant, la vérité l'a emporté, et j'ai dit qu'il ne fallait point s'attendre à voir d'État, de gouvernement, ni même d'homme parfait, à moins que des circonstances extraordinaires ne mettent les philosophes, j'entends le petit nombre de ceux qu'on n'accuse pas d'être méchants, mais d'être inutiles, dans la nécessité de prendre bon gré mal gré le gouvernement de l'État, et l'État lui-même dans la nécessité de les écouter. Ou bien, à moins que quelque inspiration divine ne donne un vrai amour de la vraie philosophie à ceux qui gouvernent aujourd'hui les monarchies et les autres États, ou à leurs héritiers. Prétendre que l'une ou l'autre de ces deux choses, ou toutes les deux, soient impossibles, n'est pas raisonnable. Autrement, nous serions bien ridicules de nous amuser ici à former de vains souhaits, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Si donc il est jamais arrivé, dans toute l'étendue des siècles écoulés, que des philosophes éminents se soient trouvés dans la nécessité de se mettre à la tête du gouvernement, ou si la chose arrive à présent dans quelque contrée barbare, placée à une distance qui la dérobe à nos regards, ou si elle doit arriver un jour, nous sommes prêts à soutenir qu'il y a eu, qu'il y a, ou qu'il y aura un état semblable au nôtre, lorsque la même muse y possédera la suprême autorité. Un tel état n'est pas impossible en effet, et nous ne supposons pas des choses impossibles. Mais qu'elles soient difficiles, nous en convenons nous-mêmes.
Je pense comme toi, Socrate.
Mais la multitude ne pense pas de même, me diras-tu.
Peut-être.
Oh, mon ami, n'accuse pas trop la multitude. Elle changera bientôt d'opinion si, au lieu de lui faire querelle, tu te contentes de la ramener doucement et de défendre la philosophie contre d'injustes préjugés, en lui montrant ce que sont les philosophes dont tu veux parler, et en définissant, comme nous venons de faire, leur caractère et celui de leur profession, de peur qu'elle ne s'imagine que tu lui parles des philosophes tels qu'elle se les représente. Quand elle sera placée dans ce point de vue, ne penses-tu pas qu'elle prendra une autre opinion et répondra tout autrement ? Ou crois-tu qu'il soit naturel de se fâcher contre qui ne se fâche pas, et de vouloir du mal à qui ne nous en veut pas, lorsqu'on est soi-même sans envie et sans malice ? Je préviens ton objection, et je te déclare qu'un caractère aussi intraitable peut bien être celui de quelques personnes, mais non pas du grand nombre.